Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 11 de « Où jeter l'ancre ?» Et notre étude aujourd'hui est intitulée « Quel est le témoignage des saintes Écritures ?» La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire. Donc, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. La chrétienté ne s'avère pas unanime sur cette question de la sécurité du chrétien. Par ailleurs, certains partisans de cette doctrine se sont rendus coupables de considérer la grâce de Dieu comme un dû, même sans vraiment le dire ouvertement. Plusieurs raisonnent en ces termes. J'ai pris ma décision, et Jésus-Christ est mon sauveur, et tous mes péchés passés, présents et futurs sont à jamais effacés et oubliés. Alléluia. Aussi n'ai-je plus du tout à me soucier de mes petits moments de faiblesse. Je n'ai plus rien à craindre. Quelqu'un caricaturait cette attitude ainsi. Dieu aime pardonner, moi j'aime pécher. Nous avons tout pour nous entendre. Or quand Dieu nous scelle du Saint-Esprit, il ne s'agit pas du tout de cela, car avec une telle théologie, on va tout droit en enfer. Les partisans de la sécurité éternelle du chrétien utilise parfois le slogan « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Et cette phrase donne cependant à certains la fausse impression que l'on peut vivre à sa guise après avoir pris une décision pour Christ. Quel que soit leur comportement, ils sont confiants en leur sécurité éternelle. Mais la Bible ne soutient nullement cette optique-là. Le salut est certes un événement important. C'est la venue du Saint-Esprit pour créer une vie nouvelle dans le cœur. Il s'agit donc de la justification. Dieu nous déclare juste sur la base de la justice de Christ. Le salut consiste cependant en bien davantage. Il comporte aussi le processus qui exige du temps de grandir dans l'expérience de cette justice. L'on appelle cela la sanctification. La sanctification est la vie chrétienne, la recherche quotidienne de Dieu et la transformation du cœur, de l'esprit et de la volonté. Nos priorités et notre optique de la vie subissent un retournement radical, une véritable révolution. Or, tandis que nous ne pratiquons, ou plutôt que nous ne participons nullement à la justification, eh bien, nous devons coopérer avec Dieu dans la sanctification. Je répète, tandis que nous ne participons nullement à la justification, eh bien, nous devons coopérer avec Dieu dans la sanctification. Voyez-vous, certains chrétiens pensent devoir adopter une attitude passive et laisser le Saint-Esprit se charger de les amener à la maturité en Christ. Or, nous ne devons pas attendre de le voir faire quelques tours de magie divine dans notre vie. Nous pourrions penser à la sanctification en termes de prendre le taureau par les cornes. Il nous faut rechercher de façon active la pratique de la sainteté et centrer notre vie sur Christ en reconnaissant que le Dieu qui ordonne de se mettre à l'œuvre, de persévérer et d'obéir en donne aussi la capacité surnaturelle. Donc, à moi d'agir, et si je le peux, je sais que c'est parce que Dieu agit en moi et au travers de moi. Quand nous disons une fois sauvé, toujours sauvé, nous ne prenons pas en compte la plénitude de la vérité du salut. Notre salut est accompli justification, il s'accomplit sanctification et un jour sera pleinement parachevé, c'est donc la glorification. Nous ne pouvons pas affirmer être sauvés, justifiés, à moins de grandir dans la pratique vécue de ce salut sanctifié. Jésus-Christ est à la fois Sauveur et Seigneur. Il montra clairement, durant son séjour terrestre, l'impossibilité de devenir son disciple et donc de recevoir la vie éternelle sans accepter de porter chaque jour sa croix et le suivre. Le Nouveau Testament met l'accent sur le renoncement à soi-même, la mort au péché et la recherche des intérêts d'autrui. Ces exhortations ne se révèlent guère à la mode aujourd'hui. Oui, beaucoup prêchent un évangile plus préoccupé à satisfaire les propres désirs de la créature que ceux de Dieu. Ils exhortent même les fidèles à croire en eux-mêmes. Et pour cette raison, ceux-ci éprouvent quelques difficultés à se placer sans réserve dans les bras du Sauveur qui est digne de toute notre confiance. Bien sûr, le véritable évangile ne se laisse pas tailler à la mesure de nos propres intérêts. Chers amis, voulez-vous une sécurité au rabais? Nous avons déjà parlé brièvement de cette conception selon laquelle je peux accepter Christ comme sauveur sans lui reconnaître encore la souveraineté sur ma vie. Or, cette vision contribue à entretenir l'idée d'une sécurité à bon marché. Cette conversion à deux étages divorce l'œuvre salvatrice de Christ de sa position seigneuriale. Il suffit donc de lui demander d'ôter la punition due à notre péché sans manifester le moindre désir de nous débarrasser de la puissance qui se dresse entre Dieu en nous. Considérons le cas du jeune homme riche. Vous vous rappelez certainement, il voulait bien accepter Jésus comme sauveur. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Saint Matthieu chapitre 19 verset 18. Et Jésus ne lui dit pas, cher ami, répète cette petite prière après moi, et tu seras un enfant de Dieu pour toujours. Mais il exige plutôt de cet homme le sacrifice de son autonomie et son humble soumission à la souveraineté du Seigneur sur sa vie. Et le jeune homme s'éloigna, car voyez-vous, il refusait ce contrôle souverain sur sa personne et sur ses biens. Qui peut donc être sauvé ? Demandèrent aussitôt les disciples à Jésus-Christ. Il leur répondit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Saint Matthieu, chapitre 19, verset 26. Remarquons en passant que Jésus-Christ ne se mit pas à courir après le jeune homme en l'implorant de revenir sur son attitude. Pas du tout. Toute tentative destinée à minimiser les exigences de l'Évangile se révèle erronée et trompera beaucoup d'âmes qui seront portées disparues, et ceci au son de la dernière trompette. Voyez-vous, Martin Luther écrivait ceci, « Ces vérités doivent être proclamées avec clarté à l'intention des élus, afin que profondément humiliés par elles, ils puissent accéder au salut. Les autres refusent une telle humiliation. Ils rejettent la nécessité de reconnaître leur impuissance, car ils veulent à tout prix contribuer à leur propre salut. Accepter Christ comme sauveur ou et comme Seigneur ne sauve pas. Cela ne change en rien qui il est. Toutefois, quand Dieu ouvre nos yeux et nous sauve, le Dieu que nous recevons est nécessairement sauveur et Seigneur. Si la seigneurie de Dieu n'apparaît pas dans notre vie, dans votre vie, vous avez tort de présumer de vos sécurités, de votre sécurité éternelle. Et je le répète parce que c'est important. Accepter Christ comme sauveur et comme Seigneur ne sauve pas. Cela ne change en rien qui il est. Toutefois, quand Dieu ouvre nos yeux et nous sauve, le Dieu que nous recevons est nécessairement sauveur et Seigneur. Si la seigneurie de Dieu n'apparaît pas dans notre vie, dans votre vie, vous avez tort de présumer de votre sécurité éternelle. Dieu ne brigue pas le mandat de Seigneur. Il ne vit pas en démocratie, mais est déjà un monarque établi. C'est pas la même chose. Aussi devons-nous rejeter cette idée de faire de Jésus notre Seigneur gentiment un peu plus chaque jour. Nous parlons souvent comme si le pouvoir de Christ sur nous dépendait de notre soumission à lui. Or Dieu ne serait jamais davantage Seigneur de notre vie qu'il ne l'est à présent. C'est à nous, oui, à nous de changer, mais pas à lui. Voyez-vous, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. Ce verset nous enseigne comment Dieu achève une œuvre quand il l'a commencée. Vous êtes-vous attribué le salut? En avez-vous gagné le droit? Non, chers amis. Il s'agit d'un don gratuit de Dieu. Quelqu'un peut-il être prédestiné, appelé, justifié, et puis ensuite perdu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Rappelons-nous, c'est Dieu seul qui justifie, selon Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Celui dont la grâce de Dieu a renouvelé le cœur et l'esprit n'a pas à vivre dans la hantise de se voir abandonné totalement de Dieu. Même s'il passe par des périodes de désert ou s'il succombe à diverses tentations, il est néanmoins une nouvelle créature. À sa grande surprise, le vilain petit canard se transforme effectivement en un magnifique cygne. Dieu ne plante jamais d'arbre qui ne porte pas de fruits. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Si nous n'observons pas, donc si nous n'observons aucun fruit, alors nous devons vérifier les racines. Cela me paraît assez clair. Dieu m'a conféré la grâce de croire en lui et de me détourner de moi-même. Ne me donnera-t-il pas la grâce de continuer, oui, vraiment de continuer à croire en lui? Si nous comptons évidemment sur nous-mêmes pour garder la foi et continuer dans la vie chrétienne, nous tombons sous la réprimande de l'apôtre Paul qui dit « Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Et après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair, par vous-même? » Galates chapitre 3, versets 1 à 3. N'oublions pas que nous nous approchons de Dieu uniquement selon ses conditions. Certes, cette réalité blessera considérablement notre orgueil, car le salut nous vient plutôt en dépit et non à cause de nous-mêmes. Je répète, cette réalité blessera considérablement notre orgueil, car voyez-vous, le salut nous vient plutôt en dépit et non à cause de nous-mêmes. Et que dirons-nous du libre arbitre? En considérant la sécurité du chrétien à la lumière de la nouvelle naissance ou de la régénération, le problème du rôle de la volonté humaine se pose. Nul, sinon lui-même, ne peut soustraire le croyant à Christ, entend-on dire. Toutefois, voyez-vous, la parole de Dieu affirme autre chose. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, est-il dit dans Romains chapitre 8, verset 39. Or le croyant est lui-même une créature. Il ne peut donc lui non plus défaire l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est destiné à ceux qui sont en Christ et se révèle beaucoup trop puissant. Si Dieu a pu nous aimer assez pour nous choisir, nous racheter même par le sang précieux de son Fils bien-aimé et nous faire entrer en communion avec lui-même, comment douter de sa détermination à nous garder dans son amour? D'ailleurs, quand Dieu change véritablement l'une de ses créatures, eh bien celle-ci ne désire pas vraiment retourner en arrière. Beaucoup voient leur salut à la lumière de la décision qu'ils ont prise. J'ai été sauvé, alléluia, c'est certain, mais c'était mardi. Puisque leur assurance du salut se fonde sur les sables mouvants d'une décision humaine, ils doivent sans cesse s'interroger sur son maintien au lieu de s'appuyer sur le caractère, sur le plan et les desseins d'un Dieu souverain. Pensons un peu à nos décisions de chaque jour pour changer de travail ou de lieu de résidence. Une crainte angoissante ne nous remplirait-elle pas si nous faisions, par exemple, dépendre notre destinée éternelle de notre capacité sans cesse fluctuante à prendre des décisions? Je ne minimise nullement la nécessité de prendre des décisions et surtout pas celle concernant notre destinée éternelle. Mais la sécurité de ma vie repose avant tout sur la décision de Dieu à mon égard. Conscient de faire partie de son plan et sachant que son intérêt pour moi est à l'origine de mon intérêt pour lui, je peux donc persévérer. Je me rappelle comment, très jeune encore, je ne cessais de redemander à Christ d'entrer dans mon cœur. Je le faisais tous les jours. Et chaque fois, je voulais m'assurer de la réalité absolue de mon salut. Dans certaines églises, l'on voit les mêmes personnes toujours s'avancer en réponse à chaque appel. Oh oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi agissons-nous ainsi? Peut-être cherchons-nous à fonder l'assurance de notre salut sur nos propres actes. Or, nous ne pouvons cependant nous fier à nos sentiments, à notre volonté ou à nos efforts, mais nous devons placer notre confiance en Dieu seulement, car il n'y a que lui qui peut nous préserver de toute chute. C'est écrit dans Jude, verset 24. Eh bien, voyez-vous, Jude, chapitre 24 n'existe donc pas, donc c'est bel et bien le verset 24. Certes, l'Écriture sainte exhorte à tendre à ce qui est parfait, donc à fonder notre salut sur nos propres actes, selon Hébreux chapitre 6, verset 1. Cependant, comme Dieu nous invite à accepter son salut, c'est bien lui, lui seul, qui sauve. De même, il nous demande de persévérer, mais c'est tout de même lui qui en donne la capacité. Et pour perdre mon salut, il me faudrait donc retourner à un état de mort spirituelle. Que penser du Saint-Esprit? s'y laissait mourir spirituellement ceux, tous ceux qu'il a ressuscités et à qui il a conféré la vie éternelle. Est-ce possible de se suicider spirituellement? C'est ce que demandent quand même certains. Non. Voyez-vous, si l'on prend au sérieux la déclaration de la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Par contre, Jude, verset 24, existe bel et bien. Si Dieu est véritablement mon Père, et s'il m'a légalement adopté conformément à sa volonté et à son plan, je suis alors un membre de la famille de son alliance éternelle. Comme il s'avère impossible d'effacer la relation avec nos parents terrestres, nous ne le pouvons non plus avec le Père céleste. Bien sûr, j'ai souvent gâché ma relation avec mes parents. Puis-je alors leur dire « Je ne suis pas votre fils » et que vous ne m'avez jamais donné le jour ? Donc, né dans une famille royale, au moyen d'une semence incorruptible, nous avons reçu le don de la persévérance qui va nous permettre de résister à la frustration et au désespoir en affirmant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1, verset 6. L'un des maillons de la chaîne du salut, comme nous l'avons vu, consiste en la justification, c'est la déclaration divine de notre acquittement. Elle diffère du processus de sanctification que l'on peut, dans une certaine mesure, vérifier de façon expérimentale. La justification ne se voit pas. Nous devons simplement croire aux promesses de la parole de Dieu la concernant, quand bien même il nous reste encore à progresser dans la vie chrétienne, et moi également. La justification évoque l'image d'un juge et d'un tribunal, et la sanctification suscite celle d'un père et d'un foyer. Elle concerne effectivement une transformation du vilain petit canard que j'étais et qui va devenir un signe admirable. Ne perdons donc pas courage. Si Dieu a commencé une œuvre en nous, croyez-moi, il va aussi l'achever. Il est un fait que les brebis ont tendance à s'écarter. Sinon, à quoi servirait le berger? Cependant, il se trouve toujours là, le berger, pour ramener les brebis au bercail. Bien sûr, il y a un coût. Cela coûte parfois quelque chose à s'écarter. Et pour l'enfant de Dieu qui traverse une période de rébellion, la vie paraît comme un enfer. Il goûte, il est vrai, de quelques plaisirs momentanés. Mais cette satisfaction ne saurait compenser le malaise et la déception ressentie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché, nous demande l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 2. Donc, vivre en rébellion contre Dieu va à l'encontre de la nouvelle nature. Nous nous rappelons combien ces premières expériences nous paraissaient alors agréables, mais elles ont désormais perdu leur attrait. Si Dieu a réellement changé notre nature, péché provoque en nous un sentiment d'étouffement, comme pour un poisson qui est hors de l'eau. Rétrograder ne doit jamais être l'occasion de se laisser aller. Le croire constitue une grave erreur, simplement de croire que c'est foutu. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. À nouveau, Jude, mais pas chapitre, mais verset 4. Et dans le livre d'Osée, au chapitre 14, verset 2 à 4, Dieu appelait son peuple à la repentance. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui « Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. » Dieu leur répondit « Je réparerai leur infidélité et j'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux. » Ça me fait vraiment chaud au cœur. Rétrograder se révèle très différent de l'apostasie. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils se sont séparés également de la famille de Dieu, l'apostasie. Mais ils n'étaient donc pas des nôtres, car s'ils eussent ou s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 19. Ça, ce n'est pas drôle du tout. Jean, l'apôtre Jean dit aussi que quiconque va au loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, mais autrement pas. C'est donc dans 2 Jean, verset 9. Deuxième épître de Jean, verset 9. Et en Apocalypse, chapitre 17, verset 14, nous voyons très bien qu'avec le Christ victorieux, les appelés, qui sont les élus et les fidèles, là, ce passage ne dit pas seulement les fidèles parmi les appelés et les élus, mais bien au contraire, il décrit les disciples comme ceux qui sont appelés, élus et fidèles. Je répète, il décrit les disciples comme étant ceux qui sont appelés, élus et fidèles. La persévérance en elle-même ne sauve pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce que la persévérance de Dieu à son égard lui permet de demeurer fidèle. La foi chrétienne s'oppose catégoriquement au darwinisme social et à ses principes de perfection. Le salut ne dépend pas de la survie du plus fort, mais proclame celle du plus faible. En d'autres termes, seul celui qui fait face à son impotence spirituelle reçoit de Dieu toute la grâce pour pouvoir persévérer par la puissance divine. La vie chrétienne ne se compose nullement des trois secrets faciles pour accéder au bonheur, comme bien des chrétiens de longue date peuvent en témoigner. Pardon, elle n'est pas facile et ne procure pas toujours un bonheur sans nuages. Excusez-moi, je répète. La vie chrétienne ne se compose nullement des trois secrets faciles pour accéder au bonheur. Combien des chrétiens de longue date peuvent en témoigner? Eh bien, elle n'est pas facile et ne procure pas toujours un bonheur qui est absolument sans nuage. Seule la grâce souveraine de Dieu permet de cheminer sur cette route difficile, encombrée de tentations et de différentes choses, de succès et évidemment d'échecs, de joie, mais aussi de frustration, mais de la tempête de notre vie. Nous pouvons, chers amis, lever les yeux vers Jésus-Christ et nous voyons alors la promesse de notre Dieu, comment il tisse toutes choses pour notre bien et pour sa gloire et comment il est toujours sur le trône. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce que demandait l'apôtre Paul avec beaucoup d'enthousiasme. Dans la course de la vie, nous appartenons à son équipe et il tire de notre côté et il désire nous voir surmonter tous les obstacles. Il est en train de nous transformer en quelqu'un dont il pourra être fier. Ni l'obstination, l'infidélité, les doutes ou l'entêtement de notre volonté ne pourront entraver son plan. Romains chapitre 8, verset 39. Et à cause mon canal lombaire qui est coincé, je dois vous le dire, eh bien, je ne rigole évidemment pas tous les jours, mais il me gardera fidèle jusqu'au bout. Or, à celui qui peut nous préserver carrément de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, eh bien, à Dieu seul. Et notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. On peut dire Amen, selon Jude, verset 24 et verset 25. Chers amis, une ancienne universitaire qui, croyez-moi, connaît par cœur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, et qui a entendu un grand nombre de ses CD, m'a dit « Oh, j'aime entendre ta voix, tu es tellement convaincu et convaincant de ton bon Dieu que tu n'as jamais vu puisqu'il n'existe pas. Je vais vous indiquer quelques passages bibliques qui peuvent nous donner, vous donner sérieusement à réfléchir à certains d'entre nous en tout cas. Mais n'oublions jamais, bien que Dieu ne ment jamais, il est et reste le souverain. En tant que fortement diminué par la chute qui remonte à Adam, nous ne pouvons jamais tout comprendre. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs, notre âme, notre esprit et nos pensées. Heureusement, Dieu sauve par Jésus-Christ tous ceux qui ont un désir 100% et absolu de l'accepter comme leur Sauveur et Seigneur, non pas pour 6 mois, mais de lui appartenir corps et âme pour le restant de leur vie. Donc, cette anecdote qui dit qu'il y aura au ciel des personnes que nous n'aurions jamais pensé de s'y trouver, et d'autres où nous étions 100% sûrs qu'ils doivent s'y trouver, mais seront introuvables au ciel. Eh bien, cette anecdote aussi devrait nous donner un peu à réfléchir. La confusion ne se trouve pas dans la Bible, mais plutôt dans nos discussions théologiques. Dans la Bible, Dieu s'exprime longuement sur les sujets traités dans ses CD. Et je vous invite à examiner avec soin toute une série de passages qui peut donner de nouveaux aperçus de la vérité biblique. Sa lecture fortifiera sans nul doute votre foi. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 7, versets 20 et 29, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, il est dit, « Le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. » Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Saint Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Saint Jean chapitre 6 verset 44. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui la connu d'avance ceux sur lesquels son amour s'est posé de toute éternité, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi celles qu'on méprise, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27 à 29. Et dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, verset 5, verset 11 et 12, il est dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 4, 5, 11 et 12. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume. Jacques, chapitre 2, verset 5. Nous ayons donc destiné, avant même la fondation du monde, à une relation éternelle avec lui. Le Père nous plaça en Christ juste avant sa crucifixion. Jésus-Christ pria « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 9. Les élus déchus dans le péché avaient besoin d'un sauveur pour satisfaire aux justes exigences de la sainteté de Dieu. Jésus-Christ s'offrit en sacrifice pour cette famille éternelle de Dieu et procura ainsi tout pour leur rédemption et pour leur vie éternelle. L'œuvre expiatoire de Christ, offerte gratuitement à tous, assure le salut des élus en les acquittant de toute accusation. L'œuvre de Christ ne se limite pas à rendre le salut possible, ni ne fournit-elle une base pour la rédemption, mais elle est la rédemption elle-même. Ainsi tous ceux pour Christ mourus sont ou seront sûrement sauvés. Selon l'enseignement clair de l'Écriture sainte, Christ vint sur la terre chargé d'une mission à l'égard d'un nombre précis de personnes. Il vint pour réaliser l'accord contracté de toute éternité, avez-vous entendu, entre les personnes de la Trinité, donné au Fils par le Père. Les élus seuls furent rachetés à la croix. Cela donne à réfléchir. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28. Prenez donc garde pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Actes chapitre 20, verset 28. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup, mais pas tous, seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux chapitre 9, verset 15. Choisis en Christ, racheté par Christ, et maintenant uni à Christ, le peuple de Dieu passe par une nouvelle naissance, une résurrection spirituelle, reçoit le don de la foi, et puis il est justifié et placé dans l'Église. La nouvelle naissance provient de la volonté et de l'action de Dieu, et non des nôtres. Nous sommes sauvés, non pour avoir trouvé Christ, mais pour avoir été, attention, pour avoir été trouvés par Christ. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ésaïe chapitre 65, verset 1. Jésus leur répondit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 29, 37, 44, 63 à 66. Donc, Jésus leur répondit : l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tout ce que le Père me donne, oui, tout ce que le Père me donne, viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Avez-vous entendu? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus du tout avec lui. Notez bien l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 29, verset 37, verset 44, verset 63 à 66. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 5, et verset 16 et verset 19. Et dans Romains, chapitre 9, verset 15 et 16, il est dit, il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Voyez-vous, nous reconnaissons tous notre penchant à l'indépendance et à l'infidélité. Si la sécurité de notre salut dépend de notre capacité à choisir Christ et à lui demeurer attaché, nous nous retrouverons avec la routine d'une justice fondée sur nos propres œuvres. Et oui, et quand Dieu commence une œuvre, il l'achève. Toute personne réellement née de nouveau ne peut rien faire pour perdre son salut qui est éternel. Le chrétien a néanmoins la responsabilité de persévérer, sinon il ne périt pas d'avoir perdu le salut, mais de ne l'avoir jamais réellement reçu. Avez-vous entendu cela? Les versets suivants vont nous assurer de la sécurité de notre relation avec Dieu en Christ. Il est dit dans Saint Jean, chapitre 6, versets 37 et 39, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et plus loin, dans l'évangile toujours de Saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Et au chapitre 17, verset 11, il est dit, « Père Saint, garde en ton saint nom ceux que tu m'as donnés. » Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés, carrément scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux, de tous ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 5, versets 13 et 14. Oui, ils sont sortis du milieu de nous. Ça, c'est la première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 19 et 25. Je répète, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Celui qui tombe dans l'apostasie, c'est-à-dire rejette la foi chrétienne et abandonne l'Église de Christ complètement, eh bien, il manifeste qu'il n'a tout simplement jamais été chrétien. Oh, c'est assez sévère. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardé par Jésus-Christ, nous est-il dit dans Jude, verset 1. Et toujours Jude, verset 24 et 25, que je répète, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, sage, et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Et là, on peut vraiment dire Amen. Oui, chers amis, sachez que Dieu aime tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé son salut n'obtiendront jamais la rédemption. Ça, c'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Donc, chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont véritablement en Christ, selon Romains chapitre 8 verset 1. Nous allons maintenant terminer par la prière. Ô Dieu, tu nous vois et tu nous sondes. Toi seul connais notre cœur et tu lis au plus profond de nous-mêmes comme en un livre ouvert. Tu sais notre penchant naturel à nous tranquilliser et à nous endormir ou à nous laisser submerger par les soucis de cette vie, sans nous préoccuper du salut de notre âme et du jugement qui nous attend tous. Nous te prions, ô Dieu, de nous réveiller par ta parole et ton Esprit Saint pour nous préparer dès ici-bas à paraître devant ta face. Enseigne-nous la brièveté et la fragilité de la vie, la certitude solennelle de la mort et le sérieux du jugement. préserve-nous d'oublier qu'entre la mort et nous, entre l'éternité et nous, il n'y a qu'un battement de cœur, et que tu es toi, le juge qui se tient à la porte. Réveille-nous, Seigneur, et maintiens-nous dans la vigilance et la prière pour échapper à la tentation et au péché. Accorde-nous, à nous tous, qui avons entendu les avertissements de ta sainte parole, d'être prêts lorsque retentira ton appel à paraître devant le trône de ta sainteté. Ne nous traite pas selon les strictes exigences de ta justice, mais selon les richesses de ta paternelle miséricorde. Entends-nous, Dieu Sauveur, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et cette série, elle n'est pas terminée. Elle va encore continuer un certain temps. La série « Où jeter l'ancre ?» À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.